Mécanique du complotisme, la Révolution française à la croisée des complots. Avec Antoine Lilti, historien. Épisode 2, à mort les comploteurs. Le 20 juin 1791, après s'être couché, comme d'habitude, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants, avec l'aide de quelques-uns de leurs proches, se relèvent, se déguisent et sortent du palais des Tuileries. Ils montent dans une petite voiture qui les conduit hors de la capitale en direction de l'Est. Ils se dirigent vers Montmédy, dans la Meuse, où ils espèrent retrouver le marquis de Bouillé à la tête de nombreuses troupes pour organiser une contre-révolution. Contre-révolution qui pourrait d'ailleurs recevoir l'appui de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et beau-frère de Louis XVI, Léopold II. Mais le convoi prend du retard et éveille les soupçons dans les villages qu'il traverse. Le roi est finalement arrêté à Varennes et la voiture fait demi-tour pour rentrer à Paris. Le roi y est suspendu et placé sous la surveillance du peuple.
Général, mon général, le roi est parti.
Parti où ?
Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale.
Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi quitte les Tuileries, s'enfuit de nuit, déguisé, et de manière évidemment tout à fait clandestine, pour rejoindre ses frères en Allemagne.
Où allez-vous ?
À Francfort.
C'est pas la route.
Et donc, cette fuite du roi a été organisée, évidemment, de manière secrète, sous la forme d'un complot, d'une conjuration, à la fois par des proches de la famille royale, Tuileries, et par des agents de liaison, en fait, avec la contre-révolution et les émigrés.
Antoine Lilti.
C'est un grand moment de basculement de la révolution, et notamment, ça va être l'idée même, au fond, d'une révolution qui aurait le soutien du roi et qui réussirait à fonder une monarchie constitutionnelle va s'effondrer. Mais surtout, ça va renforcer complètement l'idée d'une hypocrisie et d'une trahison. L'idée que depuis le début, le roi faisait semblant d'être favorable à la révolution, alors qu'en réalité, il lui était opposé et qu'il soutenait toute une série de complots aristocratiques, royaux, etc. Donc, non seulement il y a effectivement un acte de trahison du roi vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la révolution, mais il y a cette idée qu'au fond, toutes les dénonciations de complots, de conjurations, de l'hypocrisie, de ceux qui font semblant d'être favorables à la révolution pour mieux la trahir, tout ça est finalement semble validé par Varennes.
Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne, entrez.
Bonsoir. Sire.
La révolution bascule donc en juin 1791. On aura beau tenter de défendre le roi, de soutenir qu'il a été enlevé, personne n'y croit. La confiance est rompue. Certains députés continueront de défendre l'idée d'une monarchie constitutionnelle, mais ils perdront de l'influence au fur et à mesure des semaines, et l'abolition de la monarchie est désormais envisagée.
Le 25 juin, tout Paris est sur la place Louis XV pour voir le retour du traître.
Français, aujourd'hui c'est à vous de dicter les lois.
Même Marat est sorti de son trou.
Le voilà ramené dans nos murs, ce brigand couronné. Parjure, traître et conspirateur. Ne vous laissez toucher ni à ses larmes, ni à ses promesses.
Marat est un écrivain et un savant avant la Révolution, qui devient surtout un journaliste, un homme politique, mais surtout, ce qui va faire son immense succès, c'est le journal, L'Ami du Peuple, qu'il publie, qui verse une sorte d'impulsion radicale donnée à la Révolution et qui notamment va se spécialiser dans la dénonciation des ennemis de la Révolution. Mais ce qui est important, c'est que, effectivement, si vous lisez Marat, L'Ami du Peuple, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a que des complots. Ça peut effectivement donner l'impression d'un style complètement paranoïaque du journalisme ou de la vie politique.
L'ami du peuple, lundi 7 novembre 1791.
Les complots et les conspirations se multiplient d'une manière effrayante. À peine s'écoule-t-il 8 jours sans quelque explosion nouvelle. Le moyen d'en être surpris, depuis que le peuple stupide se contente de disperser les conspirateurs au lieu de les supplicier. Je suis las de le répéter, mais tant que les conjurés ne seront pas abattus, les conjurations n'auront point de terme. Et à force de tramer contre la liberté publique, ils parviendront enfin à l'anéantir. Leur dernière trame, qui vient d'être dévoilée, consiste à armer le peuple contre le peuple et à faire égorger les amis de la liberté par la main même des pauvres qu'ils nourrissent. Cet horrible complot avait été préparé à loisir. Depuis longtemps, les ministres et leurs agents dans les provinces avaient attiré dans la capitale une foule d'indigents, le rebut de l'armée et l'écume de toutes les villes du royaume. Bailly en avait rempli les ateliers, dont il avait repoussé les citoyens que la Révolution a réduits à la misère et qu'elle laisse sans pain. Il avait donné l'administration de ses ateliers à des municipaux, comme lui vendus à la cour, et la direction des travaux à des agents de l'ancienne police chargés de gagner tous les ouvriers. Une foule de mouchards répandus parmi eux présentait tout ami de la liberté comme un rebelle et notait ceux qui ne se laissaient pas égarer. Une foule d'intrigants sans cesse à la découverte des hommes adroits et déterminés les attirait dans le complot et leur remettait de grosses sommes pour faire de nouvelles recrues. C'était dans la nuit du 29 mars que ces légions de scélérats devaient se joindre aux satellites à cheval, aux chasseurs de barrières, aux gardes de port et autres brigands du général pour faire main basse sur tous les patriotes connus, proclamer le roi souverain et massacrer tous ceux qui s'opposaient à cet attentat, tandis que les conjurés du club monarchique, l'état-major et les officiers vendus enlèveraient la famille royale.
Ce qui est intéressant, c'est que chez Marat, on peut lire cette obsession du complot sur un plan politique et moral.
Antoine Lilti, historien.
Tout type d'opposition est forcément renvoyé du côté du complot, avec un imaginaire où on a d'un côté le peuple, et puis de l'autre côté des ennemis qui sont forcément dans le secret. Et donc la dénonciation et même la délation deviennent des vertus positives. Et puis en même temps, on a aussi le fait que la dénonciation du complot, c'est une arme politique extraordinairement efficace pour abattre tout ennemi et tout adversaire politique, parce qu'évidemment, par définition, le complot est secret. Donc on ne peut jamais trouver de preuves, puisque, comme dit Marat, évidemment, les comploteurs sont trop intelligents pour laisser des traces écrites. Donc la dénonciation du complot, c'est par définition ce qui permet de dénoncer l'indémontrable.
Le 13 juillet 1793, une jeune femme se présente au domicile de Marat et demande à être reçue. Sans succès. Elle revient quelques heures plus tard et laisse un billet sur lequel elle a écrit « Je viens de Caen. Votre amour pour la patrie doit vous faire désirer connaître les complots qu'on y médite. J'attends votre réponse. » Puis elle se présente une troisième fois. Marat, qui est malade, est dans son bain, mais il accepte de la recevoir et l'on fait monter cette jeune Charlotte Corday.
Que voulez-vous ?
Je suis la citoyenne Corday. Je viens voir Marat.
Non, c'est impossible, il est malade. Il ne voit personne.
J'arrive de Caen. J'ai des informations importantes sur les projets des Girondins. Il faut que je le voie.
Vous arrivez de Caen ?
Oui.
Un quart d'heure plus tard, Marat est mort, poignardé au cœur. Charlotte Corday, qui défendait la monarchie, sera immédiatement arrêtée et condamnée à mort. 4 jours plus tard, elle sera guillotinée, non sans avoir dénoncé les révolutionnaires comme étant des comploteurs et même des monstres assoiffés de sang. Il faut dire que le sang coule en ce mois de juillet 1793. D'abord, la France est en guerre contre une bonne partie de ses voisins européens. La guerre est aussi civile, notamment en Vendée, où les royalistes combattent les républicains. À Paris, la Convention a succédé à l'Assemblée consultative, et depuis le mois de juin, ce sont les montagnards qui y sont majoritaires. Les montagnards les plus favorables à la République sont emmenés par Marat, jusqu'à son assassinat, Danton et surtout Robespierre. Opposés aux Girondins, plus modérés, ils mettent bientôt en place ce que l'on a appelé la terreur. Les comploteurs, ou supposés tels, sont arrêtés, jugés et rapidement exécutés. Puis finalement, ce sont les Montagnards qui se divisent entre eux. Danton est guillotiné en avril 1794, et bientôt en juillet de la même année, c'est Robespierre lui-même qui est mis en accusation.
Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi ? Qui répand ces mensonges ? Qui les avance si délibérément pour vous tromper ? Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens ! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyens ! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment.
La chute de Robespierre, elle a été accompagnée de rumeurs et de discours dénonçant un complot que Robespierre lui-même et ses proches auraient mis en place pour que Robespierre devienne roi, pour se faire rétablir la monarchie à son profit. Donc ça, effectivement, on peut, les historiens ont montré que c'était totalement une rumeur, mais que c'était une rumeur qui avait été manipulée politiquement pour délégitimer Robespierre. Et c'est un moment très intéressant, parce que c'est quand même le moment où, justement, la dénonciation du complot ne vise plus les adversaires de la Révolution, mais vise les révolutionnaires eux-mêmes et le plus important d'entre eux, c'est-à-dire Robespierre.
Avec la mort de Robespierre, c'est une nouvelle page de la Révolution qui se tourne. Une Révolution française qui a donc été tout entière sous-tendue et alimentée par des rumeurs de complot. Bien peu étaient fondées. Disons plus exactement que bien peu de ces supposés complots étaient aussi pensés, calculés et organisés qu'on ne voulait le croire, ou qu'ils avaient les dimensions et les ramifications que l'on se plaisait à imaginer. On estime généralement que la Révolution prend fin avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte en novembre 1799. À cette époque, un livre est déjà sorti, en 5 volumes, qui s'intitule « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Il est signé d'un certain abbé Baruel, et il contient des révélations extraordinaires. Car pour Baruel, en effet, ce ne sont pas les complots qui sont au cœur de la Révolution, mais la Révolution elle-même, tout entière, qui est au cœur d'un gigantesque complot. Et qui sont alors les comploteurs ? Nous irons les chercher du côté des philosophes des Lumières, des francs-maçons, et même d'une certaine société secrète créée en Bavière au début des années 1780, et que l'on appelle les Illuminés.